Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Livre Paris, puisque c'est au cœur du grand salon littéraire français que nous nous trouvons aujourd'hui pour cette manifestation qui se tient depuis vendredi et qui fermera ses portes demain soir. 4 jours festifs donc, avec 3000 écrivains venus débattre, signer, rencontrer le public. Et cette année surtout, plein feu sur le Maroc, invité d'honneur de cette 34e édition, représentée par une délégation de 34 auteurs, dont le romancier Abdellah Taïa, que j'accueille tout de suite. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier votre 10e livre, un roman paru sous le titre « Celui qui est digne d'être aimé » aux éditions du Seuil, un récit coup de poing, très serré, très dense, qui sous forme épistolaire fait le portrait de Ahmed, 40 ans, originaire de Salé, près de Rabat, aujourd'hui expatrié à Paris. Un homme en rupture avec sa mère, avec son amant, voire la France post-coloniale. C'est vraiment un texte étonnant, qui n'hésite pas à être dérangeant, peut-être provoquant, nous en reparlerons. Mais pour commencer, justement, compte tenu de la singularité de votre univers, Abdellah Taïa, est-ce que vous vous sentez proche des autres écrivains marocains invités ici à Paris? Est-ce qu'il y a une proximité entre vous ou une diversité?
Non, je me sens très proche d'eux, même si je n'utilise pas la langue littéraire et la langue française de la même manière. Mais on vient de la même terre, si je peux dire, des mêmes frontières. Chacun a sa singularité. Je me sens par exemple très proche de Leïla Slimani qui a obtenu le prix Goncourt, de cette violence qu'il y a dans ses livres et de ces femmes qui ont envie de faire exploser tout, les carcans et les constructions bourgeoises en France par exemple. Je me sens très proche du grand écrivain Mohamed Choukri et le son fameux livre Le Pain Nu. D'ailleurs je me considère, et je ne suis pas le seul au Maroc, comme le fils de Mohamed Choukri, parce que c'est lui qui nous a montré le chemin pour dénuder le Maroc, dire la violence, introduire tout ce que nous sommes sans avoir peur, sans avoir honte.
Donc à la fois vous êtes les héritiers mais dans la continuité.
Je ne sais pas s'il y a une continuité. Je veux dire, je me sens proche de leur thème, je me sens proche d'eux comme être humain parce qu'ils sont marocains. Il y a forcément des liens entre eux et moi. Mais en même temps, je suis homosexuel. Je suis un des rares avec Rachid O à parler de l'homosexualité.
Qui reste un sujet tabou au Maroc.
Tabou et... parce que politiquement tabou.
C'est donc, quoi la différence?
Pour moi, il y a une différence parce que le tabou politique, pour moi, cela signifie que c'est une décision politique de gens qui gouvernent le pays, qui gouvernent le Maroc, qui décident encore aujourd'hui en 2017 que l'homosexualité est un délit, un crime, que le Marocain homosexuel pourrait aller en prison. Si l'homosexualité, par exemple, venait à être dépénalisée, cela serait un signal fort pour que l'homosexualité en tant que tabou social tombe. Voilà, et pour l'instant, c'est les politiques, les gens qui gouvernent le Maroc, qui ne veulent toujours pas dépénaliser l'homosexualité.
Mais après, ce sont les écrivains, ce sont vous, c'est la littérature peut-être qui peut faire avancer les choses, qui peut changer la société. Vous y croyez, Abdellah Taïa?
Je me méfie de ce que vous venez de dire parce que j'ai 43 ans et depuis que je suis sur cette terre, dans ce monde, j'entends toujours des gens, déjà dans les années 70 et 80, les écrivains vont faire avancer ci, vont faire ça. Et à un moment donné, on se rend compte que quand même l'écrivain ne peut pas tout faire. Il peut peut-être influencer une ou deux personnes, changer cette femme ou bien changer ce petit garçon, cet adolescent dans sa tête. À un moment donné, on se rend compte que c'est une décision politique. Donc pour que les homosexuels soient libérés, soient libres au Maroc et en Afrique, d'une manière générale, il faut que les gens qui gouvernent ce pays considèrent les citoyens africains, les citoyens marocains comme des adultes et qu'ils les honorent, qu'ils les protègent avec des lois et non pas qu'on continue de les considérer comme des petits-enfants à protéger de je ne sais quel diable.
En tout cas, à défaut peut-être de faire avancer la société, vous ouvrez les yeux de vos lecteurs et ça c'est important.
Oui, pour moi c'est très important quand j'écris en tout cas de sortir de la peur justement politique, de la peur religieuse, de la peur sociale et être loin de mes névroses qui continuent de me dominer dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire ces petites peurs qui font que je ne vais pas dire telle ou telle chose à ma sœur quand je l'ai au téléphone ou bien à ce Français qui me regarde d'une manière raciste mais je n'ose pas le défier dans le métro parce qu'il y a quelque chose qui fait que je m'écrase. Quand j'écris, j'essaie d'être le plus libre, le plus cru, le plus nu, le plus révolté, le plus mal élevé même.
Alors c'est effectivement le cas dans ce nouveau roman, celui qui est digne d'être aimé, je le disais, un roman composé de lettres, 4 exactement, et qui fait référence à un texte du XVIIe siècle, Lettres portugaises, où une religieuse, séduite puis abandonnée par un chevalier, écrivait son désarroi dans ses missives. Pourquoi avez-vous choisi cette forme littéraire, Abdelataya ?
Parce que s'il y a un livre qui m'a changé, c'est celui-là. Quand je l'ai lu, j'avais 20 ans, j'étudiais la littérature française, j'apprenais à maîtriser la langue française. Et comment on nous apprenait la littérature française, je trouvais toujours ça, c'était trop bourgeois, trop loin de moi, trop loin de ma réalité pauvre à Rabat, Salé. Par exemple, on nous enseignait Verlaine comme si c'était une gloire littéraire. On ne l'enseignait pas comme si c'était quelqu'un qui parlait des difficultés d'un être humain, sa façon de gérer la passion, la sexualité, d'être entre un homme et une femme et de faire un lien entre lui et moi, le pauvre Marocain. Donc je trouvais toujours que la manière avec laquelle on enseignait la littérature au Maroc était trop bourgeoise, peut-être parce que les professeurs, la plupart d'entre eux avaient étudié à la Sorbonne et qui revenaient au Maroc avec l'éthique des Parisiens, cette pose, cette attitude qui faisait que du coup la littérature, on la recevait comme quelque chose qui nous écrasait, qui faisait lien avec nous. Le seul livre, voilà, qui, en le lisant, alors qu'il n'était pas au programme, en le lisant, je me disais, mais c'est drôle, c'est moi. C'est ma façon d'aborder d'être dans le monde, d'être dans l'amour, d'être dans la souffrance et d'être dans un certain mysticisme. C'est cela qui m'a touché. Le mysticisme de l'amour et la douleur de l'amour. Et je me disais, je suis comme ça et je vais être de plus en plus comme ça.
Et c'était lié à la forme littéraire? Puisque vous reprenez le principe de lettres envoyées à un destinataire.
En fait, en lisant ce livre, j'ai compris que la forme de la lettre libérait quelque chose. Pas seulement pour l'écrivain, pour celui qui lit, mais libérait quelque chose dans l'univers, entre nous tous. Et donc, du coup, on n'a pas besoin, l'écrivain ou celui qui écrit une lettre, n'a pas besoin d'une pause littéraire, d'une pause intellectuelle pour se dire « Est-ce que j'ai le droit de faire telle ou telle chose ?» À partir du moment qu'il a en lui un désir et une raison d'écrire une lettre, il en prend un stylo, une feuille, il y a quelque chose de l'ordre de la magie, du miracle qui arrive. Et je me suis souvenu de cela parce que une fois que j'avais terminé de lire le livre, les lettres donc portugaises, je me suis mis à écrire à tout le monde autour de moi. Ça m'a enlevé la peur, ça m'a enlevé le tabou, ça m'a enlevé le sentiment que j'étais pauvre. Alors que je l'étais encore, même pour aller à l'université, il fallait économiser de l'argent pour payer le bus et tout ça avec ma mère. Ce sentiment d'être pauvre et de n'être rien au Maroc, je n'arriverai à rien, d'un coup c'est évanoui et je me suis mis à écrire à mon frère, à mes professeurs même à l'université. Et je me rappelle que j'avais écrit à mon professeur de mathématiques au collège, dont j'étais follement amoureux. Je détestais les mathématiques, mais je l'adorais lui. J'adorais son corps, j'adorais ses djellabas, j'adorais comment il parlait, j'adorais comment il nous expliquait ces choses étranges qu'on appelle les mathématiques. Et je me suis dit, voilà un homme qui m'a aidé sans le savoir dans la vie, alors que je suis homosexuel et rejeté par plein de gens. Il faut que je lui dise qu'il m'a aidé.
Et vous lui avez écrit ?
Je lui ai écrit une lettre en arabe. Il ne m'a pas répondu, mais ce n'est absolument pas grave.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières aujourd'hui au salon Livre Paris, dont l'invité d'honneur est le Maroc, et nous sommes en compagnie de l'écrivain marocain Abdelataya pour parler entre autres de ce nouveau roman, celui qui est digne d'être aimé, qui a paru au Seuil. On l'a évoqué dans la première partie, c'est un roman épistolaire, et donc la première lettre est celle que Ahmed adresse à sa mère décédée, à qui à la fois il déclare son admiration, mais aussi avec une certaine dureté, voire cruauté, il lui dit des choses terribles sur, entre autres, la manière qu'elle a eu de mal aimer, voire maltraiter son époux. Et d'ailleurs, vous écrivez, Abdelataya, que beaucoup de maris au Maroc sont comme lui. Est-ce qu'il faut sous-entendre que les femmes peuvent être de véritables tyrans ?
Elles sont des dictatrices, mais par la force des choses, parce qu'elles n'ont pas d'autre choix. La société, les lois au Maroc, les lois dans plein de pays africains, et pas que dans l'Afrique d'ailleurs, ne laissent pas de place aux femmes ne donne pas toute la liberté aux femmes pour être maîtresse d'elles-mêmes ou bien pour être ce qu'elles rêvent d'être. Ma mère a été très dure, mais je comprends pourquoi elle a été très dure. Je comprends qu'elle n'avait pas d'autre choix. Elle avait 9 enfants dans la maison et il n'y avait rien à manger. Et il avait un mari qui ne voulait pas faire le boulot, qui n'amenait pas l'argent. Il fallait bien que quelqu'un se dévoue, il fallait bien que quelqu'un aille affronter les méchants dans la rue, quelqu'un aille affronter l'administration, affronter ceux qui disent qu'une femme doit être telle, comme ça ou comme ça. Elle criait. Elle nous manipulait nous-mêmes pour manipuler les autres. Mais on n'avait pas d'autre choix, il fallait manger. Je me suis évidemment inspiré de ma mère pour le personnage de Malika, la mère de héros Ahmed. Je m'autorise à parler avec d'elle et avec elle avec une telle dureté parce que je pense que les sentiments qu'elle a nourris en moi, et donc chez les héros, sont de cette même nature. Donc quand quelqu'un meurt, et là il s'agit d'une mère qui est décédée, je trouve que c'est toujours un peu affligeant qu'on se mette à parler de cette personne décédée d'une manière tellement sage, tellement lisse, voilà, comme si cette personne a été une sainte ou un saint sur la terre, alors que on a encore tellement de choses à régler et à dire et des sentiments violents à régler même avec cette personne qui n'est plus là sur terre. Et ben au nom de ces sentiments, au nom de cette dureté installée dans le cœur d'Ahmed, ben je pense qu'il a le droit de s'adresser à cette mère avec cette violence. Et dans cette violence, je pense qu'il y a aussi de l'amour qui passe.
Juste une question un peu intime, est-ce que votre maman est toujours vivante, Abdelataya?
Non, ma mère est décédée en 2010.
Donc comme la mère de Ahmed?
Oui, exactement comme la mère d'Ahmed. Il y a beaucoup, sans vouloir jouer sur le... Ahmed est mon double, et plus que mon double. Malika, c'est ma mère. Il y a beaucoup de choses de ma mère dans ce personnage. Mais il y a aussi d'autres choses qui viennent avec la magie de l'écriture, de la littérature. Et c'est la mort de ma mère qui m'a décidé à faire ce livre.
Donc quand vous écrivez « Malgré moi, en tout, je te ressemble. Je suis froid et tranchant comme toi, malin, calculateur, terrifiant parfois, dans l'écrit, dans le pouvoir, dans la domination », c'est un autoportrait.
Oui, je
l'assume. C'est comme ça que vous vous présentez, Abdelataya.
En tout cas, quand il s'agit de littérature, ou bien dans une émission comme maintenant, il faut se débarrasser un peu des faux-semblants et du masque social, sinon ça n'amène à rien, ça n'apporte rien d'intéressant. Et je ne veux pas me présenter, en tout cas au monde, comme quelqu'un de gentil et de lisse et de sympathique. C'est pas ça le but. Si des gens me détestent, si des gens me rejettent, je vous dirais que moi j'ai déjà l'habitude, depuis que je suis dans ce monde, depuis l'enfance, j'ai vécu avec ça, des gens qui, il suffit de me regarder, ils flairent quelque chose de l'ordre de l'homosexualité ou de je ne sais quoi, et déjà avec leurs yeux, ils me rejettent, ils me tuent. Donc je n'éprouve pas le besoin d'être aimé par tout le monde, et même si les autres me rejettent, ce n'est pas grave.
Alors ça c'est très intéressant ce que vous venez d'évoquer, Abdelataya, la question du rejet dont vous pensez qu'il s'agit, que c'est lié à votre homosexualité. Parce que par exemple, vous expliquez que la mère de Ahmed avait une préférence pour Slimane, le fils aîné. Qu'est-ce que vous entendez par cette phrase « Slimane paie aujourd'hui cher, très cher, la lâcheté des autres hommes marocains ».
Les hommes sont lâches, qu'ils soient marocains, africains, français, asiatiques. Les hommes sont très lâches, ils sont d'autant plus lâches qu'ils sont aussi solidaires entre eux. Les femmes, elles sont très fortes, mais malheureusement, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe entre les femmes, entre elles. C'est comme s'il y avait trop de compétition. Une femme se sent toujours un petit peu jalouse d'une autre femme, alors que les hommes, même lâches, ils sont dans la solidarité les uns vis-à-vis des autres. Je ne peux qu'être le témoin que l'acteur du monde où je suis né et de dire les mécanismes de pouvoir et de séduction qui existent entre les êtres humains. Dans le monde où je suis né, au Maroc, où j'ai vécu 25 ans, et même en France, je constate que c'est les personnes qui ont le moins de pouvoir, les femmes, qui mènent la danse et que c'est elles qui font que la vie continue sur cette terre. C'est aussi simple que cela.
Alors, après la question de la mère, la question de l'homosexualité, on va aborder le troisième thème très important dans votre roman, Abdelataya, puisqu'il y a une deuxième lettre qui est très émouvante, écrite par un Français, Vincent, c'est un amant de passage d'Ahmed. Et ensuite, il reprend la plume pour écrire cette fois à Emmanuel, son mentor, celui qui l'a suivi à Paris, qui lui a donné une éducation française. Et là, après 13 ans de vie commune, Ahmed décide de rompre. Et la première phrase qu'il écrit, c'est, ouvrez les guillemets, « Je sors de toi et je sors de cette langue que je ne supporte plus, je ne veux plus parler français. » Fermez les guillemets. Pourquoi ce rejet ?
Dans la première lettre, la violence vis-à-vis de la mère, elle s'explique, j'imagine, parce que Ahmed, après la mort de sa mère, il se rend compte qu'il est devenu comme elle, un cœur dur. Et d'ailleurs, tout ce roman, c'est celui d'un cœur dur. Comment on en arrive, à l'âge de 40 ans, à se rendre compte qu'on a un cœur dur. Donc on remonte le temps et on voit qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce jeune homme marocain homosexuel pour qu'il en devienne comme ça, quelqu'un capable de rejeter les autres, de briser des cœurs et de n'éprouver aucune culpabilité. Avec Emmanuel, il y a eu un pacte. Quand ils se sont rencontrés à Salé, au Maroc, sur la plage publique, Ahmed voit très bien son intérêt à aller avec Emmanuel qui a la trentaine. Il voit que c'est grâce à lui qu'il pourra un jour aller en France, apprendre la langue française, s'élever dans l'échelle sociale. Mais arrivé à la trentaine, il se rend compte que Emmanuel l'a éloigné de ce qu'il est lui à l'origine. Au lieu de le réconcilier avec cette première peau, avec cette première sensibilité et avec cette histoire, donc arabe, musulmane, marocaine, pauvre, les djinns, la sorcellerie, la manière qu'ont les pauvres de dealer avec les réalités et d'en sortir un petit peu victorieux, Emmanuel a francisé Ahmed. Il a fait de lui un petit parisien capable de parler de Michel Foucault et de Roland Barthes et de Simone de Beauvoir et tout le reste. Mais en faisant cela, il n'a plus sa première peau. Et du coup, cette langue qui lui a permis de s'élever socialement, d'arriver jusqu'à Paris et de devenir cet être accepté par les Parisiens qui votent à gauche et qui parlent de Bourdieu et de je ne sais qui d'autre, philosophe français, c'est quelqu'un d'autre qui n'est plus, qui n'a presque plus rien à voir avec le premier maître. Et c'est cela qui le pousse à s'interroger sur le sens de la langue française et de son pouvoir colonial.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est une démarche presque post-coloniale que de s'emparer de ce jeune garçon marocain et de le former à son image et à sa culture. Mais en même temps, Abdelataya, vous écrivez ce livre en français, donc vous n'avez pas fait un rejet total et définitif de cette langue dont vous dites parfois « j'ai de la haine pour ce français qu'on a construit en nous ». Donc ça reste ambivalent.
En fait, je ne la rejette pas, mais je ne me sens pas totalement à l'aise dans le français. Il y a toujours encore quelque chose qui me fait me sentir un tout petit peu inférieur. J'ai toujours l'impression qu'il va y avoir un petit un bourgeois marocain qui va se mettre à parler français avec son accent bien comme il faut bourgeois et qui, moi, si je l'entends, je m'écrase au fond de moi tout de suite. J'ai toujours l'impression qu'il y a un français qui va me dire si je m'entends parler de tel ou tel écrivain comme si je n'étais pas légitime à le faire. Il y a toujours en moi quelque chose comme si je n'avais pas totalement le droit, alors que j'ai 43 ans et que j'écris plusieurs livres en langue française, comme si je n'étais pas encore totalement légitime. Et c'est peut-être ces problèmes qui font que j'écris. Si je n'avais rien, si tout était apaisé avec le français, si tout était apaisé avec le sentiment d'être encore colonisé, je pense qu'il n'y aurait rien d'intéressant. Je pense que ce qui arrive, c'est que je vieillis et que je suis de plus en plus intéressé par l'histoire et de plus en plus intéressé par le passé et comment il dirige et comment il nous enfonce dans le présent dans lequel aujourd'hui. Et je pense que j'ai fait ce livre aujourd'hui pour dire ça aussi.
Et quand Ahmed dit « j'ai perdu petit à petit la violence que j'avais en moi en commençant cette lettre », est-ce que c'est aussi votre cas, Abdelataya ? Est-ce qu'en finissant ce livre, vous avez soulagé une forme de violence, de colère qu'il y avait en vous ?
Non, parce que la littérature n'est en rien thérapeutique. La littérature, au contraire, elle bouffe celui qui écrit, celui ou celle qui écrit. La littérature, elle prend votre sang, votre chair, votre passé, ce qui vous dépasse, vos névroses, pour en faire quelque chose qu'on appelle la littérature. Mais une fois l'écriture terminée, l'auteur, moi, je reviens à ma vie ordinaire, terre à terre tous les jours, avec mes névroses qui n'ont certainement pas été résolues entre-temps.
On n'a pas parlé de la dernière lettre, celle de la Bible, dont le nom signifie...
Celui qui est digne d'être aimé.
Voilà, qui donne son titre à votre roman. Je n'en dirai pas plus parce que c'est une lettre absolument bouleversante qui nous fait comprendre aussi pourquoi Ahmed est devenu ce qu'il est et toute son enfance au Maroc. Donc vraiment, je laisse découvrir aux auditeurs et aux lecteurs la dernière partie de votre roman qui est absolument magnifique. Merci beaucoup Abdelataya d'être venu avec nous aujourd'hui dans ce salon RFI ici à Livre Paris pour parler de ce nouveau roman, Celui qui est digne d'être aimé, aux éditions du Seuil. Merci encore.
Merci à vous de m'avoir reçu.
Littérature sans frontières. Rendez-vous.